Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Vous accueillir à ce nouvel horaire est une joie et vraiment, je vous promets tout au long de la saison de sacrés voyages dans l'univers intime et méconnu de personnalités que vous pensiez connaître et que vous allez enfin réellement découvrir. Alors, on commence par deux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de la rentrée, c'est que Marianne Chazelle remonte sur les planches pour une comédie complètement déjantée de Bob Martin, La famille et le potager, qu'elle jouera avec Régis Laspalès dès le 17 septembre au Théâtre des Variétés à Paris. La bonne nouvelle du jour, eh bien c'est qu'on va passer une heure impromptue et festive avec celle qui, dans le cœur des Français, demeure Zézette et Pouzix, mais pas que. Maupassant, Molière, La Biche, des drames, Marianne Chazelle emporte tout avec une virtuosité naturelle. Et dans la vie, c'est une femme exquise. Bon, j'espère que vous avez compris à quel point je suis ravie de vous accueillir, Marianne Chazelle.
Je vais venir plus souvent, c'est agréable. On fait juste le début de l'émission et puis après...
En boucle.
Voilà, ça me convient très bien.
Non, on va prolonger. Bon, franchement, c'est chic hein, de vous être échappé des répétitions de La famille et le potager. Pour nous rejoindre, donc, pendant une heure. À 12 jours du lever de rideau, vous en êtes où de la mise en place ?
Aïe, ça c'est une question douloureuse. Vous savez, on est dans cette période où justement, comme c'est une création, parce que c'est une pièce originale que Bob Martin m'a proposée il y a 2 ans, 1 an et demi avant le confinement, et où j'avais eu la bonne idée de me dire « oui, mais je referai du théâtre à partir de 2021 ». Vous voyez, ça tombe pile poil. Là, on est dans une période, on cherche, il y a parfois on trouve, parfois on trouve pas. On s'arrache un peu les cheveux, mais comme on continue à rire beaucoup ensemble en travaillant, on se dit bon, c'est bon signe et je crois qu'au bout du tunnel, ça va rigoler.
La nuit, vous rêvez de votre texte ?
Bien sûr, je rêve de mon texte, je rêve du rideau, je rêve que je suis sur scène et quand le rideau se lève, je me rends compte que je suis toute nue. Je rêve, enfin je fais des rêves épouvantables. Là, c'est la période qui commence à être chaude, vous voyez.
Ouais, j'imagine, le compte à rebours. Vous n'aviez encore jamais eu dans votre carrière Régis Laspalès comme mari ?
Ah, comme Marie, non. On s'était rencontrés sur un Maupassant, par l'intermédiaire de Gérard Jourduy. Et j'avais trouvé cet homme absolument d'abord charmant et puis très bon acteur. Et c'est la première fois qu'on joue ensemble et qu'on a une pièce tous les deux à partager.
Alors justement, parlons-en de cette pièce. La famille et le potager, c'est une comédie acide, déjantée de Bob Martin, écrite vraiment avec un humour très cash, très politiquement incorrect. D'ailleurs, ça me fait penser un peu aux comédies anglaises de Joe Horton, mais je suis persuadée que vous allez beaucoup mieux que moi faire le pitch, alors allez-y Marianne Chazelle.
Écoutez, c'est parfait parce que je ne peux pas vous raconter l'histoire, je ne veux pas dévoiler ce qui se
passe.
Allez
un petit bout.
Ce que je peux vous raconter, c'est que voilà, c'est l'histoire d'un couple, Marie et Denis, qui s'aiment profondément, ils sont mariés depuis très longtemps. Ils ont comme particularité d'habiter dans des quartiers extrêmement chics. Lui est un peintre méconnu, qui n'a jamais exposé que dans son appartement. Et elle, ça tombe bien, est une très très riche héritière. Et donc, elle, je pense qu'elle est là et elle assure toute la famille, enfin tout ce qui suit. Et malheureusement, ce sont des gens qui sont très névrosés, très cinglés, très tordus, mais qui s'aiment profondément, très mal, comme elle dit. On s'aime très mal, beaucoup, mais profondément. Et ils ont eu la mauvaise idée de faire un fils. Et ce fils, Tom, est effectivement une catastrophe absolue. C'est le résultat vraiment de je dirais, non pas de tare, mais vraiment de problèmes psychologiques majeurs. Et évidemment, ce fils va faire des boulettes, va faire des bêtises, va faire des grosses conneries.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je trouve le mot tiède. Même.
Oui, mais je ne vais pas dire quoi.
On ne peut pas dire quoi, voilà.
Et du coup, ses parents, qui sont très aimants, même s'ils ont complètement étouffé ce pauvre garçon en le surcouvant, jusqu'où va l'amour des parents ? Jusqu'où va-t-on pour aider, pour soutenir un enfant qui a fait une bêtise ? Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, le pitch et le sujet, mais je ne veux pas vous raconter les rebondissements, parce que c'est la surprise quand on vient voir la pièce.
Entraîner tout le monde très très loin. Alors, Bob Martin, il a une patte, il a une écriture très particulière. J'évoquais à l'instant l'auteur anglais Joe Horton, mais on pense aussi, par exemple, à Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola.
Oui, dans un monde tout à fait différent, dans une autre... Mais c'est vrai, c'est pas faux. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est Horton, parce que j'ai déjà joué du Horton. Et il y a effectivement ce mélange... C'est un boulevard qui a été dynamité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation qui pourrait être traitée de façon beaucoup plus classique. Et là, ça part dans un délire et ça part jusqu'à des extrémités, des folies qui nous emmènent au-delà du rationnel et au-delà d'un réalisme qui serait plus ennuyeux et plus déjà vu.
Vous adorez jouer l'excès.
J'adore. Et c'est ça qui est très chouette là-dedans, c'est que ce sont des personnages qui sont à la fois extrêmement attachants, d'une grande sincérité et complètement excessif et complètement brinzingue.
Brinzingue,
et ça, c'est très amusant. Et avec Régis, alors pour lui, il est comme un poisson dans l'eau dans
oui,
cette dimension-là.
Oui, mais alors lui, il a une autre manière de jouer l'excès. N'est-ce pas? C'est l'excès dans le verrouillage. Et vous, c'est l'excès
oui,
dans
oui,
l'explosion.
C'est vrai. C'est vrai que mon personnage est beaucoup plus extraverti que le sien, et le sien est beaucoup plus bloqué, coincé. Il faut dire qu'avec une femme pareille à côté, hein, il faut trouver l'espace. Et on comprend que le fils soit complètement gaga. Parce qu'avec deux parents comme ça, c'est pas possible de s'en sortir. Même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est très difficile de s'en sortir.
Alors, Marianne Chazelle, votre loge au Théâtre des Variétés à Paris va donc être, en cette rentrée, votre nouvelle maison. Vous allez en faire un espace qui vous ressemble. Qu'est-ce que vous allez apporter dans cette loge qui vous rassure?
Est-ce que c'est pour me rassurer? Non, c'est... Qu'est-ce que je vais apporter? Je vais apporter une bouilloire pour le thé. Je vais apporter des coussins pour le canapé. Je vais apporter une bougie pour que ça sente bon. Et quelques photos d'amis très chers, dont mon chat. Et puis voilà. Mais ce n'est pas tellement un lieu qui me rassure. C'est un lieu où je me concentre. C'est un lieu en dehors de la réalité pour moi. C'est le petit sas qu'il y a entre la vie quotidienne de la journée qui continue. Et puis ce moment où on va passer sur scène et où on fait cette chose absolument invraisemblable de tous les soirs aller sur scène face à des gens qui sont déplacés pour venir vous voir jouer. Mmh. Moi, à chaque fois, ça me cueille.
Quelle responsabilité !
Oui, à chaque fois, ça me cueille et ça m'émeut et ça m'impressionne.
Alors, question importante, Marianne Chazelle. Je vous ai un jour entendu déclarer « N'importe qui peut jouer dans un film, mais jouer sur une scène de théâtre, alors là, c'est autre chose. »
Alors, quand je dis n'importe qui, je veux surtout pas avoir l'air d'être méprisante.
Hein. Non,
c'est pas
sûr,
du tout
mais...
ça que je dis. C'est pas dans le sens, il y a quelque chose qui est supérieur.
La caméra peut magnifier
absolument.
Quelqu'un qui n'est absolument pas pro.
Oui,
ça.
Absolument, parce que je pense qu'il y a quelque chose du magnétisme de l'image, il y a quelque chose, vous savez, quand on dit la caméra vous aime, ça veut dire quelque chose au cinéma. Et il y a des gens qui ont une forme d'aura, une forme de présence, une forme qui passe immédiatement, et il n'y a pas besoin d'avoir tout ce travail que demande le théâtre. Et c'est vrai que le théâtre, c'est un lieu où il faut beaucoup, beaucoup travailler, parce que vous avez des contraintes techniques, vocales, visuelles, gestuelles à remplir. Et puis en même temps, il faut que vous, là-dedans, vous trouviez votre liberté d'amener votre interprétation, d'amener votre invention, votre imaginaire, le sens des conneries qui vous viennent dans la tête pour que le personnage devienne vivant et existant. Et c'est un autre type de travail.
Mais on peut dire que les comédiens de théâtre vous bluffent donc un petit peu plus que les acteurs au cinéma?
Est-ce qu'ils me bluffent plus? Certains. Pas tous comme au cinéma. Certains me bluffent infiniment parce que je trouve ça absolument hypnotisant, cette magie de quand apparaît à l'écran des gens, enfin, oui, des acteurs ou des actrices, et que d'un coup vous êtes envoûtés, quoi, vous les regardez, vous les lâchez pas. Et c'est la même chose au théâtre. Mais ce qui me bluffe, c'est quand je vois pas comment ils font. Moi, ce qui me plaît au théâtre, et c'est que quand je vois.
Même vous?
Oui, 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 ça.
Après plus de 40 ans de carrière, vous ne voyez pas parfois comment il fait?
Ah ben, quand l'acteur m'impressionne beaucoup, c'est quand je ne vois pas comment il fait pour arriver là. Et pour me donner cette émotion ou cette sensation où les choses sont si simples, si évidentes, si fluides, que je ne vois pas le travail. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est quand on ne voit pas le travail et que ça apparaît comme quelque chose de tout ordinaire et tout facile, alors que derrière, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail.
Alors, je reviens à cette nouvelle pièce, La famille et le potager, qui démarre donc le 17 septembre au Théâtre des Variétés. En fait, elle appartient à quel répertoire? C'est du boulevard ou pas tout à fait?
Non,
vu la dose d'acide,
oui,
qu'il
non,
y c'est... a tout au long de l'écriture de la pièce.
C'est pas du boulevard, c'est pas un boulevard traditionnel en tout cas, c'est pas le mari, la maîtresse et l'amant, c'est pas du tout ça.
On est plus dans la comédie anglaise?
Voilà, on est beaucoup plus dans de la comédie déjantée, comme vous avez dit très bien au début de la présentation. Je pense qu'il y a une espèce de rire qui est très libérateur, qui est très soulageant, parce qu'on rit de beaucoup, beaucoup de choses, très politiquement incorrectes, mais
voilà.
Dont on rit avec, comment dire, légèreté. Vous voyez, c'est pas du règlement de compte, c'est pas de l'analyse, de la critique politique, c'est au contraire une évidence de quelque chose dont on peut rire, et c'est pas forcément très permis.
Mais vous le permettez, et c'est formidable. Bon, j'ai tant de questions à vous poser, alors on fait une pause très courte, et on retrouve tout de suite Marianne Chazelle.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Elle pétille, Marianne, fine mouche, de l'esprit en toute chose. Il ne faut pas se fier à son 36 fillettes. Elle est l'un des poids lourds de la comédie en France. Une fois de plus, elle va le prouver dès le 17 septembre au Théâtre des Variétés à Paris, dans La famille et le potager. Alors, chère Marianne Chazelle, vous êtes la fille de l'actrice Luba Gertchikov et du pasteur Paul Chazelle. A priori, on peut penser que l'un ne va pas avec l'autre. Pourtant, il y a une réelle théâtralité dans l'exercice qui consiste à prêcher au temple devant un public de fidèles.
Mmh. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça m'a sans doute inconsciemment beaucoup marqué de voir mon père en prêche et de voir ce qu'il arrivait à passer en fait comme conviction et comme émotion à ses ouailles qu'il écoutait et qui étaient venues là pour écouter ses sermons. Ouais, absolument.
Vous avez des souvenirs forts de ça?
Oui,
quand il
oui,
était
oui, très
en
petite.
Chair,
oui, très j'ai petite. Une image. Oui, j'ai une image très très forte de ça. Et ça m'a sans doute beaucoup impressionnée. Mais je pense que le désir de ma mère d'être elle-même actrice, qu'elle est devenue sur le tard de sa vie, parce qu'au départ, elle était mariée, elle était mère de famille, femme de pasteur. Alors elle le faisait de façon détournée, parce que dans les paroisses, elle créait des petits cours d'art dramatique, des petites troupes, où elle montait des spectacles. Donc c'était pour elle une façon certainement d'assouvir son désir et son besoin de jouer. Et puis une fois qu'elle est arrivée à Paris, quand mon père était nommé à Neuilly, elle a retrouvé des gens qu'elle connaissait et on lui a proposé de partir dans une aventure extraordinaire, je ne sais pas si maintenant les gens s'en souviennent tellement, qui était la création du Théâtre du Soleil.
Ah bah Ariane Nouchkine.
Voilà. Ariane était encore une jeune étudiante. Ouais. Elle est rentrée dans cette équipe qui a créé cette troupe et qui a fait cette histoire du théâtre pendant des années, monter des spectacles extraordinaires. Maman était dans cette aventure, elle était comme une folle, elle partait à 7h du matin, elle rentrait à minuit. Et comme dans cette ambiance, on faisait tout là-bas. Vous savez, on faisait le ménage, la bouffe, les textes,
du collectif,
un petit peu staccanoviste, hein, voilà. Disons-le quand même franchement. Mais bon, elle sait, je pense.
Le colcause artistique, comme dit Gérard Jugnot.
C'est ça, exactement. C'est pour ça quand on m'a proposé, elle me disait, ça te plairait pas de venir. Je dis, non, en fait, oui, mais non. Mais enfin, elle y a été très heureuse, je pense. Ça a été très, très important. Et puis moi, je l'ai vue heureuse. Et comme j'avais, je pense, ça en moi, parce que déjà toute petite, j'adorais monter des pièces, me déguiser. Je suis allée vers ça après.
Mais alors, je reste un moment sur votre papa, Marianne Chazelle, parce que ce que votre père clamait en chair devant un public de fidèles, c'était ses convictions les plus profondes, contrairement à un acteur qui, lui, joue à être quelqu'un d'autre. Alors, pour votre père, un acteur, c'était un menteur?
Oui, il ne comprenait pas du tout la dimension fictionnelle de ce métier et le plaisir qu'on pouvait avoir à jouer des textes ou à dire ou à être des personnages. En plus, bon, moi j'avais quand même des personnages gratinés, hein, entre le Père Noël est une ordure, des choses comme ça. Il ne comprenait pas le plaisir qu'on pouvait y trouver de dire et d'interpréter des êtres, de dire des mots qui n'étaient pas les nôtres. Donc ça, c'était un peu compliqué.
Mais ça a dû être donc compliqué aussi pour votre maman d'affirmer sa passion de comédienne. Vous avez assisté à des conversations entre vos parents?
Non, parce que c'était une famille où on ne parlait pas du tout. C'était un milieu où on ne s'exprimait pas du tout, absolument. Tout ça était bien verrouillé. On sentait, on voyait bien les tensions, les conflits. Mais non, ça n'interférait pas. Mais je sentais bien que c'était très compliqué pour les deux.
Mais alors, j'imagine par exemple que votre maman, en tant qu'épouse de pasteur, sans doute devait s'auto-censurer, n'acceptait pas forcément tous les rôles qu'on lui proposait au Théâtre du Soleil, non?
Non, ça, je n'ai pas eu l'impression que ça interférait au niveau du choix des rôles. C'était plutôt le choix de vie qu'elle avait fait d'aller dans ce groupe de gens très jeunes, puisqu'ils étaient quand même beaucoup plus jeunes qu'elle à l'époque, et de vivre cette vie, d'avoir ses points de vue. C'était plutôt ça qui posait problème, je pense. Plutôt que le fait qu'elle interprète des rôles, parce que les rôles qu'elle avait n'étaient pas des rôles non plus qui étaient très, très dérangeants. Donc c'était pas tellement ça, c'était plutôt ce choix de métier, ce choix de style de vie,
ouais.
Et qui posait sans doute, parce que moi j'y faisais pas trop attention à l'époque, parce que vous savez comme on est égoïste quand on est adolescent et un peu plus grand, la vie des parents, on s'en fout totalement.
Voilà.
Mais je pense que par rapport peut-être au milieu où elle était, aux paroisses où elle était, ça posait peut-être problème.
L'épouse du pasteur qui joue la comédie.
Mais qui était déjà très particulière, parce que c'est une femme qui adorait chanter, adorait danser. Elle était d'origine slave, elle était donc...
Votre famille est de Kiev.
Voilà, la famille de maman est ukrainienne, enfin une partie, la moitié, sa maman. Et donc, ça faisait déjà, c'était déjà une personne un petit peu particulière, déjà à part. Donc, elle avait commencé très jeune à surprendre. Oui, j'allais voir ses pièces, bien sûr, au soleil, absolument. Puis après, je l'ai vue dans les films où elle a tourné d'un Indien dans la ville.
Mais vous avez même partagé une affiche au cinéma, non?
Alors oui, je lui avais proposé un rôle dans un film que j'avais écrit, qui s'appelait Les Sœurs Soleil. Elle avait des apparitions aussi dans Les Visiteurs, où Christian lui écrivait des scènes où elle avait des apparitions. Thierry l'avait fait jouer aussi dans L'Indien dans la ville. On se suivait. Puis quand on faisait nos théâtres, quand on construisait nos théâtres, elle venait nous voir, elle nous apportait des gâteaux, elle aidait pour la construction des costumes, elle cousait, enfin elle était emballée que je fasse ça, elle était très présente.
Votre père, lui, donc le pasteur Chazelle, il a mis 16 ans pour venir vous voir jouer sur une scène. C'était en 90 pour La Dame de chez Maxime, de Feydeau. Vous étiez une star, Marianne Chazelle, depuis bien longtemps. Et 11 ans, déjà, s'était écoulé depuis la création de la pièce Le Père Noël est une ordure, où vous étiez l'inénarrable Zézette, épouse X. Pourquoi il a attendu aussi longtemps, votre papa, pour venir vous applaudir sur une scène?
Oh, écoutez, je sais pas. Il faudrait lui demander. Maintenant, c'est trop tard. je sais pas. Je pense que d'abord, c'est pas un univers qu'il aimait tellement, le théâtre. Il était plus sensible à la peinture. Et puis, je crois qu'il n'aimait pas me voir exhiber sur une scène. Je pense que ça devait le gêner, le côté, la présence physique, le regard des gens sur moi.
Vous pensez que jamais il n'a vu sa fille en Zézette épouse X sur un écran,
je
même
sais pas.
De télévision?
Peut-être, peut-être, ça je peux pas
en
vous
tout cas,
dire.
Il ne vous en a jamais parlé.
Non, jamais, jamais, jamais.
Mais à la mort de votre père, en rangeant ses affaires, vous avez eu une vraie surprise.
Oui. Il avait effectivement des coupures de presse, des critiques, des papiers, des interviews qu'il avait regardées, qu'il avait suivies et qu'il avait mis de côté.
Alors, avoir pour père, donc, un pasteur, grandir au son des versets protestants, c'est pas anodin comme éducation. Comment on s'y prend ensuite, Marianne Chazelle, pour le lâcher prise exigé par le métier d'acteur?
Eh bien, on fait des rôles de composition. ce qui m'a tout de suite... Pas tout de suite, parce qu'au départ, bon, dans Les Bronzés, c'était plutôt des personnages de mon âge et des petites midinettes qui incarnaient des gens de quotidien que je pouvais connaître. Mais quand je commence à jouer dans Le Père Noël est une ordure, là, j'ai quelque chose qui se débloque en moi et que je comprends. Et je trouve un extrême confort, mais pas simplement un confort dans le sens « c'est facile », parce que c'était pas facile à trouver, mais au contraire de bien-être, d'être un personnage que je ne suis pas, de jouer vraiment des gens que je ne suis pas du tout. Et c'est quelque chose que je vais adorer faire. Après, j'ai joué dans Papy, faire de la résistance au théâtre. Et après, je vais continuer parfois dans des rôles comme ça, dans Ginette. Et ça me... De pouvoir être un personnage très loin de moi, ou que je ne suis pas du tout, ça me plaît beaucoup. Parce que je les trouve toujours beaucoup plus intéressants que moi. Et ça me plaît d'être quelqu'un d'autre et de me cacher. Vous savez, c'est le fameux masque dans la Commedia dell'arte. Ça a toujours existé. Et je crois que c'est une façon de se protéger.
Alors, je reviens à un moment très important de votre adolescence. Bon, on sait bien que c'est dans la cour d'un lycée de garçons à Neuilly que vous avez remarqué pour la première fois quatre ados qui avaient pour nom Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Christian Clavier. Mais à cette époque, pourquoi eux et pas d'autres? Qu'est-ce qui les distinguait quand ils avaient 16 ans?
Ah, ils étaient très différents. Ils étaient très différents des jeunes de l'époque et du milieu dans lequel on évoluait, où ce qui était important, c'était d'avoir la bonne mobilette, d'avoir le bon vêtement, les bonnes chaussures, le kilt. Eux, ils étaient foutés tout à fait de tout ça, de tous les signes extérieurs. Et surtout, ils s'amusaient et ils étaient extrêmement drôles. Ils ne se prenaient pas du tout au sérieux, ils étaient tellement drôles. Et moi, d'un coup, j'ai vu le monde. Je me suis dit que le monde pouvait être, et la vie pouvait être drôle et légère. Et ça m'a apporté vraiment ça a été une découverte pour moi, parce que je venais d'un milieu où les choses étaient quand même bien, tout était important, tout était sérieux, tout était profond, tout était, bon, il y avait une lourdeur, même s'il y a une profondeur, mais il y a aussi une lourdeur dans la profondeur, il y a quelque chose qui est pénible à vivre. Et là, d'un coup, ça devenait léger, ça devenait, on pouvait rire de tout, on pouvait se moquer, on pouvait rire ensemble, et ça a été pour moi vraiment une découverte. C'est pour ça que ça m'a attirée.
Alors, tout a commencé dans un atelier de théâtre, mais il a fallu du temps pour tous vous regrouper. Parce que vous, par exemple, vous aviez fait une licence d'histoire et vous aviez même entamé un mémoire sur l'influence des journaux féminins sur les femmes après la guerre. Est-ce que vous vous souvenez, Marianne Chazelle, du jour où vous avez décidé « Bon, allez, c'est bon, j'abandonne tout pour les rejoindre ».
En fait, ça ne s'est pas fait tard, parce que ça a toujours été. Parce que quand on était au lycée, on montait déjà des spectacles ensemble. On avait monté une
pièce.
Mais
vous étiez des lycéens. Après,
oui,
c'est un choix
oui,
de
c'était,
vie.
Oui, voilà, c'était pas du professionnel. Bon, moi, c'est vrai que je commence à faire une licence d'histoire à Nanterre. Il y en a qui, après le bac, ont arrêté. Il y en a qui ont quand même fait semblant de faire des études, comme Thierry et comme Christian.
Qui était fou de mathématiques.
Voilà, Thierry et Christian qui étaient à Sciences Po. Mais c'est Gérard le premier qui a passé le pas. Et c'est Gérard qui a dit, après son bac, moi, je veux être acteur, je veux après être réalisateur. C'est lui qui a rencontré Tilla Shelton, qui était venu donner une conférence au lycée Pasteur.
Et qui vous a embarqué. Qui vous a rameuté.
Voilà, il a dit au garçon, j'ai trouvé un prof, Tilla Shelton veut bien nous donner des cours, elle n'en a jamais donné, mais elle veut bien. Moi, je continuais parallèlement ma fac, parce que ça me permettait, j'avais une bourse et ça me permettait de vivre aussi. Mais En fait, j'ai plongé à ce moment-là, mais j'étais, si vous voulez, un peu planquée, parce que je faisais les deux, j'hésitais. La pression familiale était très forte.
Et oui, le papa pasteur.
Il fallait que je devienne agrégée d'histoire. Je me rendais compte qu'être prof, je préférais me tirer une balle dans
le... Il attendait ça de vous, votre père, que vous deveniez agrégée d'histoire.
Ah oui, certainement. Oui, c'était certainement la projection familiale de mon avenir. Moi, j'avais commencé à travailler parce que je faisais des petits boulots, mais dans des bureaux, dans des trucs comme ça. Je me disais, mais je vais mourir. J'étais en apnée. Je disais, je pourrais jamais me contraindre et m'adapter à des univers comme ça, aussi formatés, aussi réguliers. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, j'ai fait un petit peu les deux, en prenant les cours d'un côté, en continuant la fac de l'autre. Et puis, à un moment donné, quand les garçons ont monté un spectacle à Troyes, qui s'appelait Non, Georges, pas ici, et ils ont eu besoin de quelqu'un pour la régie. Et c'est là où je me suis dit, j'y vais, je vais faire la régie, je ne connaissais rien, je ne savais même pas brancher de prise. Enfin, à l'époque, je ne savais même pas brancher de prise. J'ai fait la régie avec eux. Et
une façon d'intégrer la bulle.
Voilà.
Et donc, vous avez d'abord été régisseuse.
Voilà. J'étais déjà amoureuse avec Christian et on vivait ensemble. Mais je suis rentrée par la petite porte comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 2-3 mois. Mais c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Et c'est comme ça que je suis partie dans le métier. Et du coup, j'ai réintégré le groupe chez Tsila.
Ouais.
Et puis voilà, et c'était parti.
Mais alors, le premier jour où la régisseuse, dont on n'imagine pas du tout qu'elle a un potentiel de comédienne, balance une réplique tellement drôle et d'une manière tellement juste, vous vous souvenez des premiers pas quand vous avez osé?
Non, je ne m'en souviens pas. Non, je ne m'en souviens pas du tout. Non, ça, franchement, je cherche, mais alors, j'ai pas le souvenir. Je sais que la première fois où je vais jouer, ça va être pour un festival à Gigondas. Vous voyez, c'est un festival d'été.
Et il faut bien commencer.
Voilà, et c'est là où, à Gigondas, je me souviens, on nous avait donné des bouteilles de vin. On était super contents parce qu'ils nous avaient offert du vin.
C'était votre cachet.
Ouais, quasi. Je crois que c'était notre cachet. Et là, c'est la première fois que j'ai joué avec les garçons. Mais je ne me souviens pas plus de l'émotion que j'ai eue. J'ai juste le souvenir de Gigondas où j'ai joué.
On se retrouve tout de suite en compagnie, c'était pas tant, de Marianne Chazelle.
Europe 1.
Dans le paysage musical français, elle est vraiment le talent qui compte, Clara Luciani. On écoute Respire encore.
Elle veut s'oublier, elle veut qu'on la drague.
C'était bien sûr Clara Luciani. Respire encore.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
La famille et le potager. Eh bien non, non, ça n'est pas le titre d'un reportage politiquement correct sur la nutrition bio. C'est le titre de la pièce probablement la plus déjantée de la rentrée, portée par Marianne Chazelle et Régis Laspalès à partir du 17 septembre au Théâtre des Variétés à Paris. Marianne Chazelle, ce qui est prodigieux dans l'histoire du Splendide, c'est qu'au moins trois générations de Français ont imprimé les aventures des bronzés et du Père Noël est une ordure. Bon, les modes passent, et Dieu sait s'il y a des formes de rire qui se démodent, mais le Splendide résiste. Pourtant, c'était pas gagné au départ, parce que je me souviens vous avoir un jour entendu confier, vraiment le succès a été long à venir. On a eu le temps d'être mauvais. On a eu le temps d'être mauvais et d'apprendre.
Donc voilà, maintenant je dirais plus mauvais.
Parce vous diriez qu'en fait, quoi ?
Apprendre. Je dirais simplement qu'on n'était pas sous le diktat du succès immédiat et on a commencé par un tout petit théâtre qui faisait 50 places. Après, on a été dans un théâtre de 250 places, après de 400 places. Je crois qu'on a eu cette chance que n'ont peut-être plus maintenant les jeunes acteurs ou les jeunes artistes qui se lancent, c'est-à-dire à qui on demande d'avoir un succès immédiat et où tout peut être quantifié. Nous, personne ne nous connaissait, on était dans notre bulle, on évoluait dans un milieu de jeunes, un petit peu universitaire. Charlie Hebdo était très soutenant, mais on n'avait pas du tout accès encore aux médias comme il y a maintenant. Pour, généralement, dans les familles, quand les enfants faisaient ce métier, c'était une catastrophe. On préférait qu'ils fassent une bonne école de commerce ou qu'ils fassent, voyez, ou qu'ils deviennent avocats.
Voilà, maintenant là, les familles rêvent que leur fils soit acteur ou footballeur.
Dès qu'il passe à la télé, les parents sont emballés, tout le monde regarde.
Face The Voice.
Face The Voice. À l'époque, non, c'était pas du tout, du tout la même limonade. Donc, je crois que ça a été pour nous, enfin, une grande chance. Alors, quand je dis que le succès est venu tard, non, maintenant, quand vous parlez de ces années, cette durée effrayante, je ne dis pas que ça a été long, mais on l'a appris. Voilà, appris. Alors, on a appris plein de choses. Hein. On a appris la menuiserie, on a appris à monter des murs, on a appris plein de trucs à côté.
En fait, vous avez tout créé collectivement. Les décors, les textes, la mise en scène, les costumes, même tenir la caisse d'ailleurs. Je rappelle, j'avais dit tout à l'heure que Gérard Jugnot parlait de votre colcause artistique, mais... Une autre déclaration que vous avez faite, et vous allez peut-être la nuancer aujourd'hui au micro d'Europe 1. Un jour, vous avez déclaré que, séparément, aucun d'entre vous ne s'en serait sorti.
Oui, alors peut-être que je dirais plus ça maintenant, mais c'est vrai qu'on était tous incertains. Chacun avait l'envie de jouer, l'envie de faire quelque chose d'artistique. Gérard était très déterminé, lui, dans le désir qu'il avait d'être réalisateur, c'est vrai, de cinéma. Les autres avaient envie d'écrire, ils s'étaient retrouvés au départ sur l'écriture de leurs sketchs. On avait envie de jouer ensemble, le fait de faire une troupe, ça nous protégeait.
Ouais.
Et je pense que c'était comme une famille, une famille choisie, comme la famille qu'on se choisit et qui est souvent parfois la meilleure que la famille d'origine. Et je crois qu'on s'est aidé, on s'est entraidé à grandir, à mûrir, à apprendre. Et puis bon, après, chacun a pris son envol. Mais on s'en serait... Alors, je dirais pas maintenant qu'on s'en serait pas sorti. Je pense que c'est excessif. Mais par contre, je suis sûre, là, qu'on s'est permis de se révéler, de devenir qui on va devenir par la suite.
Même votre formation a été commune autour d'un seul professeur, Tilla Shelton, connu du grand public pour avoir joué Tati Daniel. Alors son truc à Tilla Shelton, il paraît que c'était de vous faire travailler les contre-emplois. C'est-à-dire qu'à Michel Blanc, elle donnait le rôle de Roméo, par exemple, de Roméo et Juliette. Et puis à vous, si pétillante, elle faisait jouer Ondine.
Oui, et oui, les jeunes premières. Au départ, vous savez, toutes les actrices, elles ont envie de jouer les jeunes premières.
Bien sûr.
Les belles, celles qui ont la robe. Bon, moi, les jeunes premières, je ne voyais même pas. Je
voilà,
même pas comment
c'est
ça se jouait.
Adjani sur la scène
en
de
plus,
la Comédie Française.
Exactement,
quoi.
C'était la grande époque d'Adjani qui, à 15 ans, avait été géniale dans Le Petit Chat est mort. Donc, c'était pas possible de s'identifier à ça. Et cette femme était à contre-courant complet de l'époque, puisqu'à l'époque, on faisait essentiellement de l'expression corporelle, vous voyez, du masque neutre. On faisait des exercices qui s'appelaient les bûches, où il fallait se coucher, en sentant le feu monter dans la colonne vertébrale. Enfin, nous, on pouvait pas, on pleurait de rire, on se pinçait, on disait des bêtises. Et Tilla, elle nous a fait une formation très, très classique. On jouait du Proust. Par exemple, jouer du Proust, je voulais mon chapeau de jouer du Proust. C'est des phrases qui durent deux pages et demie.
C'est ça.
Donc ça, et puis on jouait les textes
classiques. Faut bien gérer la colonne d'air, hein. Et puis Shakespeare.
Et Shakespeare, et puis tous les grands textes de répertoire, qui à l'époque étaient non pas considérés comme pas bien, mais qu'on travaillait beaucoup moins. Et elle nous a fait bosser là-dessus. Ce qui est quand même étonnant quand on voit après ce qu'on a fait par nous-mêmes et où on est, dans quelle direction on est allé.
Mais ça prouve à quel point il faut toujours avoir les fondations.
Voilà, exactement. Elle nous a appris ça. Alors, elle nous a surtout clos, sa formation par cette phrase qui restait mythique. Après qu'on lui ait présenté la première représentation de notre premier spectacle dans notre premier café-théâtre, où on était tellement traqueurs et tellement en attente, et voyez, tellement anxieux de savoir la réponse. On va nous dire, est-ce que vous avez été génial, les enfants? Et elle nous a dit, bon, maintenant, mes petits choux, faut jouer. Alors qu'on était sortis, explosés de fatigue en eau, en ayant l'impression d'avoir atteint le nirvana, ça a été maintenant, mes petits choux, faut jouer. Donc, on a compris que tout restait à faire, qu'il fallait s'y mettre.
Alors, vous y êtes mis, effectivement. Et je pense, par exemple, à la pièce, parce que avant d'être un film, ça a été une pièce. Le Père Noël est une ordure. Vous l'avez créé en 79. Ça a été très soutenu par Charlie Hebdo. D'ailleurs, c'est Reiser qui avait dessiné l'affiche de cette pièce. Mais il paraît que lorsque le film est sorti, ça a été un tollé général au point que la RATP a refusé la campagne de pub.
Oui, il voulait pas du titre. Il trouvait ça trop choquant. Il disait que c'était une atteinte à un mythe enfantin. Le Père Noël est une ordure. Donc, ça a été très mal accueilli. Enfin, ça n'a pas été très soutenu au point de vue de la sortie. Et puis dans les critiques, ça a été moyen.
Les journalistes refusaient d'écrire et de prononcer le titre à la radio et à la télé, paraît-il, tellement « Le Père Noël est une ordure ». Bon, la phrase était...
J'avais zappé ça, je ne savais plus.
Incroyable.
Ouais. Donc, d'où effectivement le choc du film. Parce que quand vous y mettez ça dans un contexte pareil, quand vous voyez le film, c'était quand même... On avait été très inspirés par « Affreux, sale et méchant », qu'on adorait. Qui pour nous avait été une découverte de cinéma italien absolument géniale des années 60-70.
Et c'est à partir d'un personnage d'ailleurs de ce film d'Ettore Scola que vous avez composé le personnage de Zezette.
Oui, parce qu'il y a la très, très jeune fille dans l'histoire de la famille, de cette famille de, on ne sait pas, de prolétariat, sous-prolétariat.
De malheureux.
De malheureux, mais à la fois malin comme tout, malhonnête et en même temps très touchant. Et il y a la petite jeune fille qu'on retrouve enceinte à 14 ans, avec ce destin épouvantable qu'on lui imagine. Tout ça dans un film où on pleure de rire. Ce qui n'empêche pas, ce qui est bien la preuve qu'on peut parler de choses tout à fait graves et tragiques et en même temps faire rire.
Alors, bien sûr, d'ailleurs, pour le film Le Père Noël est une ordure, il n'y a eu aucune nomination d'acteur au César pour un film qui est devenu culte. Mais pourquoi, Marianne Chazelle, trouvez-vous que de tous les films tournés par l'équipe du Splendide, Le Père Noël est une ordure est le plus abouti?
Parce que, alors, je pense que dans l'écriture, déjà, je pense qu'on a fait des progrès d'écriture et qu'on est arrivé à, justement, à une galerie de portraits où chaque personnage est identifiable et en même temps décolle. On n'est pas collé à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une dimension, il y a un excès, il y a quelque chose de vrai, de fondamentalement juste dans le personnage, mais sauf que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que la réalité. Il y a une incongruité, il y a une folie dans les situations, un excès, mais qui est tenu par une immense sincérité. Et puis il y a une réalisation aussi, la réalisation de Jean-Marie qui était aussi... remarquable par rapport à... Il y a une production où il y a... qui est meilleure, où il y a plus d'argent. Il y a plein de choses qui font qu'on a tous grandi, on est tous devenus... Mais bon, c'est pas pour ça que j'aime pas les autres. J'adore
Les Bronzés,
la réalisation de Patrice, qui est un jeune réalisateur qui arrive, qui a des tout petits moyens pour faire le film. Nous-mêmes, qui sommes débutants, c'est notre premier rôle au cinéma. Donc, mais pour moi,
c'était
disons que l'expérience...
merveilleux.
Voilà, l'expérience du Père Noël, pour moi, c'est artistiquement, je dirais, ce qui est le plus abouti.
Vous avez, en fait, beaucoup fait rire, mais vous avez aussi joué Maupassant, vous avez joué des drames pour la télé, comme Le Mystère du Lac. Alors, je voudrais savoir, la grâce qui consiste à offrir de l'émotion au public, est-ce qu'elle est aussi intense que la jubilation qu'il y a à provoquer les rires?
Alors, pour mon cas personnel, si ça vous intéresse...
Mais ça m'intéresse curieusement.
Comme j'ai d'abord été dans un univers de comédie où les gens ont beaucoup ri, où j'ai vu que, bon, effectivement, j'avais l'esprit de... cette tournure d'esprit-là et ce plaisir, cette jouissance extrême à jouer dans des comédies, j'ai été très gâtée. Et vous savez que les acteurs, bon, c'est des gens toujours insatisfaits, ils ont toujours envie du rôle que l'autre a et de jouer autre chose que ce qu'ils ont joué. Et moi, ça a mis longtemps avant qu'on me propose des rôles où il y ait d'une autre couleur, d'aller dans un répertoire plus, plus sombre, plus intérieur, plus grave.
Parce que, par exemple, on parlait d'Isabelle Adjani tout à l'heure. Bon, d'Adjani, on s'attend plutôt à être bouleversée, a priori. Et pourtant, elle est douée aussi pour la comédie, bien évidemment. Mais a priori, on n'attend pas d'elle qu'elle nous fasse rire.
Oui, donc, ce qu'elle a su faire. Hein,
ce qu'elle a su faire, absolument. Mais ça veut dire qu'au fil d'une carrière, on dessine un territoire. On dessine son territoire. C'est pas seulement une question d'emploi, c'est une question de choix.
Alors, pour moi, enfin, oui, je pense que c'est une question de... Non, en fait, je dirais que c'est plutôt une question d'emploi.
Ah bon ?
Parce que vous êtes évidemment fait au départ plus pour un domaine qu'un autre, un style qu'un autre. Mais par contre, rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs. Et de, en vous appuyant sur ce que vous avez construit, sur la confiance et sur ce que vous avez appris en jouant dans un certain type de registre, rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs. Bon, il est vrai... Je dirais ça sans aucune aigreur, ni malveillance, pas aigreur, j'enlève le mot, c'est pas ça. Sans aucune malveillance, que curieusement, on a l'impression que les gens qui arrivent, qui sont très bons pour la comédie, qui arrivent à faire rire, ce qui n'est pas donné, je le dis en toute humilité, à tout le monde, ont une grande facilité à émouvoir. Vous voyez, quand ils arrivent dans un registre d'émotion...
Donc moi, dans ce que vous me dites, j'entends que l'inverse, en fait, n'est pas évident.
Non, c'est pas si évident que ça.
Voilà.
Je vais vous dire l'inverse.
Ceux qui savent donner de l'émotion ne savent pas forcément faire rire. Mais
ceux
qui savent faire rire,
pas toujours.
Savent très souvent donner de l'émotion.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, quand vous faites rire, c'est ce que disait Pierrot Mondi, qui était magnifique. Il disait qu'en fait, il parlait de Fedot, c'est de la tragédie à l'envers. C'est-à-dire que vous jouez des situations extrêmes, qui pourraient être des situations de drame, sauf que c'est des situations qui doivent faire rire. Et là, je pense que comme on se met en état d'être ridicule, d'être minable, moche, bête, donc tous les défauts des êtres humains, tout ce qu'on est, on n'est pas là pour magnifier, pour glorifier l'humain, on est là au contraire pour montrer tous ses petits côtés, tous ses travers. Je pense que ça peut nous amener peut-être plus facilement vers exprimer des émotions et de tristes ou sombres.
Alors, Marianne Chazelle, juste avant de faire une pause, de plus en plus d'acteurs tournent pour des plateformes de vidéos à la demande, et vous l'avez fait d'ailleurs il y a quelques temps pour Amazon Prime, aux côtés de Sylvie Testu.
Absolument, qui était une première coproduction sur Amazon d'une comédie française en collaboration avec les Allemands.
Voilà, alors même Scorsese tourne pour Netflix, il tourne des films qui ne seront jamais vus en salle. Donc, on est en droit de se demander si dans 10 ans, il y aura encore des salles de cinéma. Ou alors, si les films seront à jamais emprisonnés sur des écrans d'ordinateur et de smartphone.
Oui. Vous voulez quoi ? Vous voulez que je vous donne une réponse ?
Une réponse sincère. J'ai l'impression que dans 10 ans, il n'y aura plus de salles de cinéma.
Alors, ça me semble terrible, si ce que vous dites est vrai. Je trouve que c'est extraordinaire la vie que permet les plateformes. On a vu un renouveau des sujets... des styles de jeu, des acteurs, je trouve qu'on se régale. Moi, je suis la première, je suis accro, j'adore ça. Mais en même temps, pour moi, un film de cinéma dans une grande salle, dans le noir, sur un magnifique écran, avec un son de dingue, partagé avec d'autres gens, je trouve que ça a une saveur et que ça a un prix. En tout cas, c'est mon expérience de vie. Je pense que les gens qui n'auront pas été élevés là-dedans, ils s'en foutront parce qu'ils ne l'auront pas connu. Mais je trouverais ça dommage parce que je trouve qu'il y a il y a une saveur qui est inimitable.
On retrouve tout de suite Marianne Chazelle.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
C'est sur les planches que Marianne Chazelle nous donne rendez-vous à la rentrée pour 2 heures de folie douce. 2 heures de folie douce intitulée...
Pas douce, hein. Je dirais de folie un peu hard. Hein,
c'est... Allez, folie, parce que de toute façon, folie douce, ça englobe tellement de choses déjantées.
Oui,
que,
on peut le dire aussi, mais c'est quand même assez, c'est quand même assez péchu.
Pour une pièce intitulée donc La famille et le potager, une pièce qui lui permet de partager la scène, entre autres, avec l'inénarrable Régis Laspalès au Théâtre des Variétés à Paris. Alors, chère Marianne Chazelle, le cinéma, c'est l'immédiateté. N'est-ce pas ? À peine a-t-on entendu action qu'on est à 120% dans le personnage.
Mais enfin, on l'est au mieux.
Au mieux, mais de façon morcelée. Le théâtre, en revanche, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'on a 2h30 pour dérouler, dans sa chronologie, une histoire. Est-ce que vous, actrice, vous préférez le temps long du théâtre ?
Oui, moi j'adore le temps long du théâtre. Parce qu'on peut travailler son personnage de façon vraiment... très, très, très en détail, très profond, très... on revient, on trouve des choses différentes. On voit entre la façon que vous avez eu d'envisager, par exemple, l'attaque de la première scène et comment vous allez la jouer lorsque vous allez passer devant le public. Souvent, c'est l'opposé. Souvent, il y a un monde, c'est le temps qui vous a laissé. C'est le regard de la metteur en scène, bien sûr, Anne Bourgeois, qui fait la mise en scène de la pièce et que je salue parce que c'est une femme absolument merveilleuse. Mais vous avez le temps, vous avez la possibilité d'essayer. Vous savez, quand je vous disais au début, nous, on a eu la chance, on a pu se planter quand on était jeune pour apprendre. Mais là, le théâtre, ça vous permet ça. Ça vous permet d'essayer toutes les possibilités et d'essayer toutes les couleurs d'une scène pour servir un personnage, une histoire que vous racontez.
Et en même temps, il y a plus de prise de risque.
Et de revenir en arrière et de changer si ça ne convient pas, si ça ne va pas.
Oui.
Mais... Alors la prise de risque, elle est en scène. Hein, elle est quand vous êtes là sur le plateau et puis que vous balancez face aux gens. Alors vous ne savez pas du tout comment ça va être pris, comment ça va réagir. Et puis tous les soirs, il faut être au rendez-vous. Et puis il ne faut pas être fatigué. Et puis il ne faut pas penser à autre chose.
La famille et le potager, c'est une création.
Oui, c'est la première fois que cette pièce va être jouée.
Donc la première fois, là... C'est chargé, hein.
Ah oui, parce que nous, bon, on a énormément ri et tous les acteurs qui sont dedans, ça me ferait plaisir qu'on les cite. Parce qu'il y a Jean-Baptiste Chelmerdine, il y a Juliette Alain, il y a Emma Gamet et il y a Caroline Maillard.
Ouais.
Voilà. Et donc, quand on est ensemble et quand on a lu la pièce, on a beaucoup ri. Mais après, parfois, quand vous attendez le rire, le même en face dans le public, parfois ça vient pas. C'est ça qui est très étonnant.
Bon, alors quand vous êtes sur scène, le rire, il arrive toujours.
On essaye, on fait en sorte que...
Bon, mais alors, très honnêtement, question qui fâche un peu, Marianne Chazelle. Il n'est pas jeune, le public du théâtre. Faut-il s'inquiéter de l'avenir du théâtre, justement, parce que son public n'est pas jeune. Comment le renouveler?
Alors moi, je serais moins sévère que vous. Je ne pense pas qu'il n'est pas jeune.
Je me fais l'avocat du diable.
Ouais, hein. Il n'est pas jeune, c'est vrai. Mais il est jeune aussi, parce que maintenant, il y a tous ces réseaux sociaux, cette facilité de prendre des places par Internet. Le prix des places est très adapté selon les jours de la semaine. Il y a possibilité d'avoir des bonnes places pas chères. Je pense qu'il y a un énorme effort qui a été fait justement par tout le monde du théâtre, en tout cas du théâtre privé. Et puis, je crois que les gens... ils sont quand même très sensibles au fait que c'est un spectacle vivant et que de voir en scène des vrais gens qui prennent le risque, où on ne sait pas ce qui va se passer, où il peut tout se passer. Je crois que les gens, ça durera toujours. Je ne vois pas du tout. Ce n'est pas un écran, ce n'est pas votre téléphone qui peut remplacer ça. Ce n'est pas une tablette qui peut remplacer ça. Vous voyez ? Cet échange et cette émotion que vous avez à voir des personnes qui sont en face de vous, vous regardez. Et je crois que ça, c'est unique. Et moi, je suis assez confiante. Alors, il faut trouver les bonnes... forme, il faut trouver les bonnes pièces, il faut trouver...
Voilà. Et celle-ci, justement, bon, elle est d'une modernité, on l'a dit tout à l'heure, elle est politiquement incorrecte.
Je pense que la
famille et le potager, ça manie un humour bien noir, parfois féroce.
Alors, justement, je pense très libérateur parce qu'on rit sans arrière-pensée de choses qui pourraient être dramatiques ou graves, mais qui sont volontairement traitées avec un humour, une légèreté, une drôlerie. On a le droit, vous voyez ? On a le droit, on est autorisé à... Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment.
Alors j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec le dramaturge anglais dont vous avez joué des pièces et qu'on évoquait au début de cette conversation, Joe Horton, qui écrivait « Le rire est une affaire sérieuse et la comédie est une arme bien plus dangereuse que la tragédie.
» Ah écoutez, pour moi le rire, je pense que c'est une philosophie de vie, hein. Je crois que c'est une façon de résister à l'adversité, de résister. On ne peut pas vous empêcher de regarder, on ne peut pas s'empêcher de rire. Quand on a un fou rire dans un endroit où on ne doit pas l'avoir, c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous submerge. C'est donc une émotion qui est viscérale et qui est vitale.
Dans les dictatures, on n'aime pas du tout les gens qui rient.
Oui, c'est donc bien la preuve que si dans les dictatures, on n'aime pas ce qui fait rire et ce qui est drôle, c'est que ça met en danger. Alors bon, que ce soit une arme politique, ça j'y crois pas, mais que ce soit par contre une arme pour résister, pour se communiquer et pour dire des choses, oui, ça j'y crois tout à fait.
Revenons à vous, Marianne Chazelle. Bon, le rire, il est dans votre ADN, pourtant depuis quelques années, vous envoyez ce message. J'espère bien un jour jouer « Qui a peur de Virginia Woolf ?»
Par exemple.
Par exemple, ou bien « La folle » de Chaillot. Mais surtout, j'ai vu que vous l'avez souvent confié, je rêve d'incarner un jour Catherine de Médicis, reine virtuose dans la manipulation.
Oui, des rôles historiques. Oui, absolument. Mais vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans notre entretien, c'est que les acteurs ont toujours envie d'aller là où ils n'ont pas encore mis les pieds. Et c'est vrai que c'est des domaines que je ne connais pas bien. Et j'adorerais incarner des personnages comme ça, absolument. Et je pense qu'on peut, quand l'âge vient, quand on est plus avancé dans son expérience de vie et puis que physiquement on est identifiable à d'autres types de personnages, on peut le faire.
Alors par exemple, quel est le personnage assez inattendu au théâtre ou au cinéma que vous avez vu passer ces dernières années et que vous auriez bien aimé incarner, que vous regrettez peut-être même de ne pas avoir incarné?
Y a plein. Il y a un personnage qui m'a vraiment beaucoup intéressée. J'ai vu une série qui s'appelle Patria. Je ne sais pas si vous l'avez vue.
Non.
Une série espagnole qui parle de l'ETA, de la période historique de l'ETA. C'est une très très belle série qui met en conflit deux familles qui étaient amies avant les événements dramatiques de l'ETA et qui évidemment va exploser parce qu'il y a eu l'assassinat de l'un par l'autre, un des membres d'une famille par un des membres de l'autre famille. Et dans cette histoire, il y a deux femmes qui sont face à face. Et on avait envie, avec mon amie Annie Grégorio, on se voyait déjà distribuer. Il y avait ces deux rôles. Elle aurait joué la personne la plus populaire. Moi, j'aurais joué la bourgeoise. Et ces deux femmes ont été amies et ces deux femmes ont été séparées par le choix des politiques et idéologiques des membres de leur famille. Et ça parle du pardon. Et, ça parle, et c'est une histoire magnifique. Ça, c'est un rôle que j'aurais adoré jouer. Voilà, par exemple, pour vous dire, c'est pas du tout dans la comédie ça, hein. C'est franchement.
Effectivement.
Mais c'est superbe, je sais pas si vous l'avez vu, c'est superbe.
Je vais essayer de trouver la série. Est-ce que Margot, votre fille qui a décidé de consacrer sa vie à l'humanitaire, hein, Margot qui travaille avec des ONG à l'autre bout du monde, est-ce qu'elle a l'opportunité de temps en temps de venir vous applaudir au théâtre ?
Non, je pense qu'en ce moment, elle est très prise dans ce qu'elle fait. Puis vous savez, là récemment, ça fait 2 ans quand même, on est empêtré avec cette histoire
de Covid,
dont on espère bien que ça va s'arrêter pour que tout le monde puisse revenir au théâtre, pour changer les idées, pour s'amuser. Et il y a eu beaucoup de difficultés pour passer les frontières. Hein. Les pays ont été fermés, il faut des autorisations, on n'a pas les vaccins toujours partout. Donc pour l'instant, non, mais je fais confiance. Quand ça sera possible, elle viendra.
Elle est très courageuse, Margot, hein, parce qu'elle est allée, par exemple, au Népal avec Action contre la faim. Elle est confrontée quotidiennement à des choses terribles. Elle vit dans des conditions qui sont vraiment difficiles. Vous êtes bien sûr très, très fière d'elle, mais j'imagine que parfois, vous devez vous inquiéter, Marianne Chazelle.
J'ai arrêté, parce que j'ai...
Vous avez arrêté de vous inquiéter?
Oui, absolument. D'abord, c'est pas Action contre la faim, elle est dans une ONG qui est tibétaine, et elle s'est installée là-bas, elle travaille là-bas, elle est passionnée par cette culture. Mais j'ai arrêté parce qu'au début, c'était très très difficile à accepter en tant que parent. Mais maintenant, j'ai confiance, je sais qu'elle se débrouille, qu'elle est très adaptée, qu'elle connaît les gens. Enfin, elle a tout son réseau d'amis, de soutien là-bas, et j'ai un grand respect, une grande admiration pour ce qu'elle fait.
Bien sûr.
Et puis vous savez, c'est ce qu'on apprend quand on a des enfants, c'est qu'il y a un moment, il faut les lâcher, puis ils deviennent des adultes, et puis ils font leur vie.
Vous parlez par Skype, par FaceTime?
Oui, absolument.
Ouais. Alors Marianne Chazelle, consacrée sa vie aux autres, en travaillant donc comme ça, s'installer, vous l'avez dit, au Tibet, qui n'est pas l'endroit le plus favorisé de la planète, c'est comme avoir presque une vie de missionnaire laïque. Je pense qu'il aurait été très fier, votre père, qui était pasteur, s'il avait vécu assez longtemps pour voir le choix de vie de votre fille.
Oui, mais en même temps, c'est une religion, enfin, c'est pas une religion, c'est une philosophie, mais c'est pas du tout chrétien.
Oui, c'est pour ça que je dis laïque. Ouais. C'est comme, je parle de missionnaire laïque parce que, en fait, c'est la genèse même de la générosité hors religion.
Ouais. Ce que je trouve frappant, c'est de voir comme cette génération a eu cette ouverture sur le monde, sur l'extérieur, sur d'autres cultures, et ont eu besoin d'aller ailleurs. Et parce qu'elle n'est pas du tout seule dans son cas. Hein. Il y a beaucoup de gens de sa génération, de son âge, qui ont ce genre de parcours. Et qui ont pris ce genre de décision. C'est donc qu'ils ne doivent pas trouver forcément ce qui leur convient dans notre maintenant, dans notre pays, dans notre culture, dans comment on vit, dans comment on évolue. Mmh. C'est ça que je trouve intéressant aussi.
Vous auriez 20 ans en 2021, Marianne Chazelle. Vous partiriez aussi sillonner la planète?
Ça, c'est une question que je ne me suis pas jamais posée. C'est-à-dire que sillonner en ce moment, on se rend compte de la difficulté.
Bien sûr, hein, mais une fois que...
Oui, mais ça, c'est un événement qui quand même nous a...
Impact, induit beaucoup de choses.
Ah, je trouve que là, on a vécu quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout à vivre, qui est d'une force invraisemblable et qui remet en question beaucoup de choses. Et effectivement, quand vous n'avez plus le droit de bouger, qu'est-ce que vous faites? Quand vous n'avez plus le droit de voyager, quand vous aimez ça, quand vous aimez aller voir, qu'est-ce que vous faites?
Vous rêvez.
Oui, vous rêvez, vous jouez.
Vous jouez. Vous jouez. Alors justement, le 17 septembre, au Théâtre des Variétés à Paris, est-ce que, allez, on va dire deux petites minutes avant le lever de rideau, vous regarderez au travers des petits trous qui sont faits à cet effet dans le rideau de velours. Vous regarderez la salle qui bruisse, la salle qui piaffe d'impatience.
Bien sûr.
Vous allez le faire?
Ah oui, toujours. Alors on ne regarde pas pour voir si on connaît des gens, mais on regarde pour voir si les gens sont là, quelle tête ils ont, s'ils ont l'air détendus, si... Ah oui, bien sûr, c'est très excitant quand on entend ce bruissement qui monte... Quand on... Ah oui, c'est des moments qui sont uniques.
La pièce a pour titre La famille et le potager. Vous êtes sur scène entouré de Régis Laspalès, mais aussi de Jean-Baptiste Schelmerdine, de Juliette Alain, Emma Gamet et Caroline Maillard. Ce sera un succès.
Merci, je croise les doigts.
Je vous embrasse. Merci
infiniment. Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.